19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Good evening, everybody. I am very glad to welcome Mr. Jean-Christophe Granger from France. It is very nice to see you. And here you have something to smoke if you want. Vous n'hallucinez pas. Je reçois Jean-Christophe Granger dans le salon chinois, mais c'est un peu le salon indien aussi chez La Pérouse ce soir pour son roman Rouge Karma, dont la deuxième moitié se déroule en Inde. Et Jean-Christophe, ce livre aurait pu avoir un autre titre, Baba Pas Cool.
Tout à fait, tout à fait. C'est la version sombre.
Oui.
Dark,
oui.
Du grand courant hippie, du grand courant baba et de ce pèlerinage. Moi, je voulais en parler, ça a toujours été ma passion, cette grande migration des hippies en quête de spiritualité vers l'Inde.
Oui. Vers la fin des années 60, quoi.
Voilà. C'est pas quelque chose que j'ai connu, j'étais trop petit, mais je sais pas, ça a toujours été pour moi une sorte d'idéal, une période en apesanteur comme ça, avec des gens qui rêvaient de paix, d'amour, de spiritualité. Enfin, que des bonnes choses. Alors,
oui. Bon. Alors, je vous arrête tout de suite avec votre petit discours de paix, d'amour et de spiritualité. On est quand même chez Jean-Christophe Granger, donc les hippies ne sont pas très très gentils. Enfin, en tout cas, il y a un hippie très très méchant.
C'est ce que j'ai aimé aussi. Je trouve que plus le mal frappe dans un contexte innocent,
oui,
plus c'est fort, plus il y a une déflagration comme ça. Donc en effet, il y a longtemps que je rêvais dans cette communauté douce et un peu amortie, hein, notamment par les drogues. J'avais envie de mettre un démon qui sacrifie des jeunes filles. Et donc c'est ce que j'ai fait.
Parce que il faut dire une chose, c'est que les sectes, les gourous hindous ou influencés par la spiritualité, il y en a eu pas mal, et notamment un très célèbre, c'est Charles Manson. Charles Manson, et c'est un ancien hippie qui a basculé dans le satanisme et qui est peut-être d'ailleurs un des modèles de votre monstre.
Absolument, je pense que Charles Manson et l'horreur du meurtre de Sharon Tate et de ses amis a été deux fois choquant parce que c'était tout simplement horrible, mais qu'en plus ça arrivait à une époque hippie, de paix, cette communauté, elle était assez satanique en fait, mais Charles Manson, on le dit pas assez souvent, mais c'était au départ un chanteur qui voulait comment dirais-je, percer dans la musique, qui était proche d'un des Beach Boys, etc. Et c'était c'était doublement terrifiant, oui, de voir surgir un diable dans une communauté qui a priori oui, était une communauté de baba cool. Oui.
Alors c'est nouveau chez vous de vous intéresser à l'histoire depuis le roman précédent qui s'appelait Les Promises, qui se passait à Berlin en 1939. Vous avez voulu peut-être vous renouveler pour là ça se situe donc à Paris en mai 68 et puis ensuite à Calcutta.
Alors j'ai découvert il y a longtemps que je voulais écrire un livre sur le nazisme, donc je me suis lancé avec un peu de stress parce que j'avais peur justement qu'un roman historique, chaque mot, chaque détail, ça demande des recherches.
On sent qu'il y a du boulot, hein.
Et en fait, ça a été une bonne surprise parce que j'ai trouvé un nouveau matériau avec plein de détails justement inédits pour moi. On parle de voitures d'un autre temps, de mobilier d'un autre temps, d'habitudes d'un autre temps. Et en même temps, j'ai éprouvé une certaine lassitude.
Vous en aviez marre de...
Oui, de mon époque. Je trouve que c'est pas très romanesque comme époque, notamment pour les enquêtes policières, parce qu'aujourd'hui, les flics sont assis derrière un ordinateur toute la journée, et puis quand ils sortent, c'est pour aller voir un laboratoire où on analyse des poils de moquette.
Oui.
Tout ça n'est pas du tout romanesque, et surtout pas du tout ma vision du roman policier, qui pour moi est l'histoire d'un homme qui frappe aux portes, rencontre des gens, plonge dans un univers...
Et voyage beaucoup, dans vos livres.
Et puis c'est avant tout pour moi une aventure humaine, et c'est devenu très très technologique la
police scientifique.
Alors il y a eu un engouement pour cette police scientifique quand elle a débarqué, parce que justement alors c'était nouveau, mais maintenant on se retrouve un peu coincé où tout le monde est sur internet, tout le monde est en blouse blanche. Moi ça m'intéresse plus du tout en fait. Donc là j'étais content. à Berlin en 39 et maintenant en 68 à Paris puis en Inde parce que tout d'un coup passer un coup de fil ça veut dire quelque chose, avoir des informations ça veut dire aller les arracher à des gens, tout le monde est dans l'humain quoi, dans le un monde incarné.
Oui, moi, alors je dirais la grande différence quand même entre les promises donc Berlin 39, c'est que là il y avait pas mal de monstres autour de l'hôtel Adlon, il y avait quand même c'est une période où les monstres étaient majoritaires en Allemagne. Alors que là, c'est plus original, on est en pleine période babacool, et les hippies se révèlent aussi des tueurs. Alors, on continue d'en parler pendant une heure, et on commence par un premier choix musical de Jean-Christophe Granger, c'est Claudio Monteverdi, Pur ti miro, extrait du couronnement de Poppée, chanté par Anne-Sophie von Otter et Sandrine Pio en 2012. De beauté, nous parlions de Monteverdi, alors c'était peut-être pas la version que vous souhaitiez
Alors, malheureusement, j'aime beaucoup une version qui mêle le bandoneon.
Oui.
Et qui est très intéressante parce que c'est un CD.
Monteverdi.
On parlait encore de CD.
Revisité, quoi.
Voilà, Monteverdi revisité et associé un peu à Piazzolla. Et on s'aperçoit que harmoniquement, tout ça, il y a des choses très proches entre les certaines.
Oui, mais je pense que vous n'avez pas franchi les fourches codines de Radio Classique et ils ont souhaité une version plus traditionnelle. Je crois que c'est
en
ça
tout cas,
que
c'est un morceau magnifique qui clôt le couronnement de Poppée. Et je vais faire un peu mon savant, mais qui en fait n'est pas de Monteverdi. C'est une chanson qu'il a piquée à un autre compositeur. Et à l'époque, ça se faisait facilement. Il y avait tellement de trucs à mettre dans un opéra. Quelques tubes de l'époque. Et bon, maintenant, pour tout le monde, c'est du Monteverdi et c'est magnifique.
La publicité de votre dernier roman, Rouge Karma, publié chez Albin Michel, c'est un graffiti, comme un graffiti de mai 68, et il y a marqué « Ce n'est pas un thriller, c'est une révolution ». Alors, je trouve que c'est assez marrant de vous faire réagir là-dessus. Est-ce que vous avez voulu un peu révolutionner votre manière d'écrire en remontant dans le temps.
Tout à fait. Maintenant, je pense que j'en ai pris là pour quelques romans un peu historiques avec des époques différentes. D'ailleurs, je me suis attaqué là aux années disco et aux années sida.
Parce que
c'est une période qui m'intéresse beaucoup.
Donc ça va s'intituler Meurtre au palace.
quelque chose dans ce genre-là. D'accord. Et pareil, là, j'aime beaucoup cette période parce que c'était une période d'abord de liesse, ensuite
là, pour
de libération,
le coup, on a connu.
De libération homosexuelle qui a été ravagée, détruite aussitôt jaillie par le sida.
Oui.
Et ça m'intéresse beaucoup parce que, comme contexte pour mes histoires de meurtre et tout ça, c'est vraiment intéressant.
Mais est-ce que finalement, c'est pas une manière aussi pour vous de revenir à votre premier métier, qui était d'être grand reporter? Vous avez travaillé pour Paris Images, pour le National Geographic, pour le Figaro, comme moi. Et vous avez même aussi travaillé dans la pub.
Oui,
j'ai appris ça.
Mais on a beaucoup de points communs parce que moi, j'ai beaucoup moins longtemps travaillé dans la pub que vous. Mais ça a été un vrai traumatisme pour moi, parce que je sortais de la Sorbonne, j'avais passé des années sur Flaubert, et puis j'étais dans ces valeurs, vous voyez, à la Sorbonne, les grands maîtres, les dieux, c'est les grands auteurs, et puis cette philosophie anti-bourgeoise, tout pour l'art, des destins déchirés, etc. Puis quand je me suis retrouvé... assis derrière un bureau, on m'a dit non, mais là, tout ce qu'on t'a raconté, c'était pour blaguer. Maintenant, on va faire du pognon. Tu vas me faire des... Moi, je faisais quelque chose d'assez horrible qui s'appelait des publi-reportages. Donc, c'était non seulement même pas de la publicité, ni mais, du journalisme, c'était du faux journalisme et de la fausse publicité.
Mais vendu et complètement à une entreprise.
Moi, j'avais pas de chance, j'étais tombé sur un créneau, c'était les cosmétiques. Donc, si vous voulez... je sortais de mon mémoire sur Flaubert, je me suis retrouvé très vite dans les...
Dans
les anti-cernes, et non, les vergetures ne sont pas une fatalité. Donc ça m'a fait un choc, et surtout à l'époque, j'ai cru que c'était ça ma vie maintenant. Ça serait ça ma vie, ça serait... finalement, j'avais beaucoup travaillé sur Flaubert, et puis ce personnage donc de romantique de Madame Bovary, et puis de, par antithèse, Homais, le bourgeois qui pense qu'à faire de l'argent, etc. Et je découvrais qu'en fait, on m'avait en effet raconté des blagues. Le vrai monde, c'était le monde de Homais,
le
pharmacien, et le capitalisme, et puis voilà, il fallait gagner sa vie. J'ai eu de la chance parce que j'ai arrêté tout de suite la pub, mais j'ai gardé ce savoir-faire que j'ai fait en freelance. Et en étant freelance, j'ai rencontré beaucoup de gens, dont ces photographes qui m'ont emmené avec eux en reportage. Voilà.
Mais au fond, là, en allant en Inde pour écrire Rouge Karma, vous refaites ce que vous faisiez quand vous aviez une vingtaine d'années.
Et finalement, comme je dis toujours, je suis content parce que je suis resté un étudiant. Moi, j'adorais étudier, mais je voulais pas non plus être chercheur ou professeur. J'avais pas du tout la vocation. Mais finalement, pour chaque livre, je fais un nouveau reportage, un nouveau dossier d'études, et ça me plaît parce que je m'enrichis. Je n'arrête pas de lire des livres, documents. Et c'est pas un hobby, c'est pas quelque chose que je fais à côté de mon travail, c'est mon travail. Donc je suis très heureux de ça.
Alors, je raconte un tout petit peu le début de l'histoire. Ça se passe à Paris. Il y a Hervé Jouhandeau, un hommage à l'auteur de Chaminadour.
Très bien, les références.
Bien sûr, 1934. Hervé Jouhandeau a un frère qui est dans la police, qui s'appelle Jean-Louis, et il est amoureux de Nicole, une très belle rouquine étudiante, et tout ça se passe pendant les manifestations de mai 68, tout près d'ici, là nous sommes à Paris dans le 6e, et on retrouve une copine de Nicole qui s'appelle Suzanne, qui est assassinée, mais dans une position de yoga, très étrange. Alors, comme d'habitude chez vous, la pauvre, elle a passé un très mauvais moment avant de mourir. Et on va suivre une enquête, donc à trois, Hervé, son frère Jean-Louis et Nicole vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on tue cette pauvre jeune femme dans une position de yoga? Voilà. Et comment vous avez ces idées-là? Vous prenez de la drogue ou...
Non. Alors, malheureusement, les idées souvent les plus dingues de mes livres, ça me vient naturellement. C'est l'arrière de mon crâne, là, qui me souffle ces choses-là. Et là, ce qui me plaisait d'abord, alors, c'était de commencer avec mai 68, une période pour laquelle j'ai une grande affection, une grande tendresse. Et je dois dire qu'en creusant le sillon, j'ai découvert un aspect un peu ubuesque et un peu comique qui m'a fait me dire c'est plus intéressant encore de raconter ça, ces ficelles de ces événements, de ces jeunes, je vais pas déflorer mon livre, mais je raconte quand même ce qui s'est passé à l'époque, et on était loin quand même de la grande révolution qu'on nous a vendue après. Et alors, ce que j'aimais, c'était de plonger donc ces trois jeunes dans ce contexte-là, déjà très mouvementé, déjà un sujet en soi. Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est en effet le meurtre de cette jeune fille, et qui va, pour des motivations différentes, impliquer ces trois personnes qui vont décider de mener elles-mêmes l'enquête, et qui vont très vite comprendre que ces meurtres, parce qu'il y en a d'autres ensuite, sont sous le signe d'abord du yoga, et puis plus généralement de l'hindouisme, et puis finalement ça va les amener là-bas, en Inde, et c'est là où leur pas va coïncider avec ceux des babas, des hippies de l'époque,
voilà, etc. Ça devient des babas pas cool, et donc des vraiment une vraiment ambiance cool, de plus en plus violente. C'est votre 17e livre. Au début, quand vous avez commencé, vous avez débarqué avec un peu en plein néo-polar, c'était la mode du roman policier de gauche, d'extrême gauche, Jean-Patrick Manchette, Jean-Claude Izot, ADG, mais aussi Frédéric Fajardi, il y avait Puy, il y avait Le Poulpe, tout ça, on s'en souvient. Et vous débarquez avec un truc nouveau, qui était une sorte de Thomas Harris français, on peut dire ça. Vous aviez lu Le Silence des Agneaux.
Bien sûr. Ouh là là, c'était ma grande référence. Et bien James Ellroy aussi. Oui. Disons que ma ligne était assez différente des auteurs du néo-polar que j'admirais beaucoup. C'est pas la question, mais j'avais surtout à cœur d'écrire, de raconter une histoire. Une bonne histoire qui prend les gens. C'est pour ça qu'on m'a tout de suite, et notamment Albin Michel, qui m'a soutenu et m'a permis de...
Donc c'était Le Vol des Cigognes.
Au firmament, voilà, le premier. Qui a voulu insister là-dessus en disant, voilà, ce Français-là, vous voyez, il écrit des histoires en façon anglo-saxonne, c'est-à-dire, ouais, ça voulait dire une bonne histoire qui va vous prendre sans, connotation sociale-politico. Voilà. Parce qu'à l'époque du néo-polar, malheureusement, l'intrigue devenait un prétexte pour surtout véhiculer des idées. Et les intrigues devenaient un peu faibles. Bon, moi, je suis tombé à l'époque du poulpe et tout ça. Donc, c'était une ambiance sympa, mais c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et je dois dire que depuis, il y a plusieurs auteurs qui ont suivi plutôt mon sillon, quoi.
Oui, bien sûr.
Qui se sont lancés dans des, ce qu'on appelle des thrillers pour un peu différencier des
thrillers. Thriller, mais thriller gore quand même, hein.
Thriller gore
avec des meurtres particulièrement soignés.
Un souci de l'histoire et des personnages qui s'apesantissent moins sur le côté social, sur le côté tatati tatata.
Ouais, sauf que là, vous commencez quand même pendant mai 68, donc c'est quand même politique. D'ailleurs, vos personnages se moquent un peu de l'aspect, comme vous dites, ubuesque.
Oui.
Prétentieux des grands discours politiques de gens qui rentrent chez eux, chez papa-maman le soir, quoi. Mais bon.
Bah, je voulais insister sur ce, comment dirais-je. Bon, je veux pas forcer le trait, mais finalement, cette révolution qui était vraiment, alors, archi-à-gauche.
Disons qu'elle a eu des conséquences importantes, mais.
Trotskisme, marxisme, oui, maoïste. C'était finalement une révolution de petits bourgeois. Et les prolos, c'était plutôt les CRS qui se prenaient des pavetons sur la tête et qui n'avaient rien demandé, qui venaient de Montpellier, qui venaient de Lille. Voilà. Et j'ai voulu montrer un peu ça. Et puis, montrer aussi quand même Jean-Louis, qui est un socialiste convaincu et qui croit, alors, lui, plutôt à un avènement, par la démocratie, par la politique, et qui y croit dur comme fer. Il aura raison, puisque, en 81, enfin le socialisme arrivera. Mais c'est pas le propos, ils vont être très vite arrachés à tout ça par l'urgence du sang, l'urgence
par l'horreur,
des meurtres, etc.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la mode des feel-good books? Vous êtes exactement à l'opposé, hein.
Alors, je suis à l'opposé.
Vous déclenchez le malaise, alors que beaucoup de romancières cherchent le bonheur du lecteur.
Oui. Mais je pense que, paradoxalement, moi-même, je dirais pas que je fais du feel good, hein, n'allons pas jusque là, mais je pense qu'il y a un petit plaisir, et même un grand plaisir, à lire des histoires terrifiantes sous sa couette.
Oui.
Comme les enfants, vous savez, écoutent les histoires qui font peur.
Oui.
On a peur, c'est horrible, mais tout ça est faux, et finalement, le temps du livre, le mal et ce dont on a vraiment peur, c'est-à-dire la personne qui va débouler chez vous pour vous tordre le cou, c'est de la fiction. Et donc, je pense que, je dirais pas que les gens se sentent mieux en lisant mes livres, mais il y a un côté, feel good, il y a un côté feel good.
Moi, je le dis, quand je lisais Rouge Karma, j'étais très content d'arrêter de le lire.
Non, mais ça vous arrache à votre quotidien, ça vous met dans une urgence où le mal, et ça, j'insiste toujours quand même, perd toujours à la fin.
Oui.
Les livres sont positifs dans le sens où c'est toujours quand même l'enquêteur, le représentant, entre guillemets, du bien qui va gagner.
Ne spoilez pas, peut-être qu'il y a un jour, écrirez-vous peut-être un livre qui finit mal.
Oui,
ça serait une belle surprise. Bon, alors, vous aviez 7 ans en mai 68. Est-ce que la révolution sexuelle vous a traumatisé?
Écoutez, alors là, vous me branchez sur un sujet qui m'est cher.
Oui.
Non, mais la révolution sexuelle, moi, ce que j'ai vécu, c'est l'après, période de tout ça, qui a eu pour résultat que tout le monde était assez libre. Moi, je suis arrivé au moment de la pilule. Donc, finalement, tout le monde avait la liberté de s'accoupler avec celui qui lui plaisait ou celle qui lui plaisait. Et... Alors oui, la révolution sexuelle, ça a été que le sexe n'était plus un problème. Mais c'en était un autre parce que on avait passé en mode séduction, en mode playboy, et oui. Dieu sait que c'était pas ma partie à l'époque. Donc si vous voulez, j'ai vu passer la révolution sexuelle, mais j'ai surtout vu plutôt passer des difficultés sentimentales. Et puis alors moi, je le dis souvent. peut-être vous le savez, mais je passe beaucoup de temps au Japon, qui est un pays assez différent sur ce plan-là, qui est resté assez féodal, où la prostitution est quelque chose de tout à fait courant et commun. Et je dis toujours, mais moi, je viens d'un pays où on n'avait pas besoin de prostituer. Mmh. En croyait-on. Et d'ailleurs, il n'y en avait plus beaucoup. Il y avait quelques...
Parce que tout était ouvert.
Voilà, tout était ouvert, il fallait se débrouiller tout seul. Et avec l'âge, je dois dire que j'ai une certaine nostalgie de... Pas de la prostitution, mais vous savez, du monde un peu avec les courtisanes du 19e siècle et tout ça.
Ah ben, nous
ça,
sommes,
c'était la belle époque.
Nous sommes dans une maison de plaisir ici, chez La Pérouse. Ah oui, il y a des petits salons avec... Enfin, ça n'est plus comme cela, mais autrefois, La Pérouse était un endroit très hospitalier. Je change de sujet. Non, alors vous avez dit, notamment chez Augustin Trapenard, mais vous l'avez raconté plusieurs fois, vous avez eu une enfance effrayée, apeurée.
Oui.
Un père qui était plus ou moins malade mental.
Qui était malade mental, qui était une menace pour nous, qui avait interdiction de me voir et qui pourtant... J'étais trop petit, je ne me souviens pas. Enfin, oui. Je ne me souviens pas, je pense que je me souviens malgré moi. Et qui faisait des intrusions, parfois armées, enfin quelque chose de vraiment
de terrifiant.
Ouais. Et j'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère qui ont fait ce choix de ne pas en parler et qui finalement ont dilaté dans ma tête cette espèce d'ombre menaçante.
Parce
qu'on n'en parlait jamais et c'était quand même quelque chose que je ressentais. Donc je pense que tous mes cauchemars, toute ma peur,
mais même votre inspiration.
Et puis ensuite cette tentative de sublimer tout ça par un goût esthétique, parce qu'après très vite j'ai aimé les films d'horreur, j'ai aimé les romans gothiques, j'ai aimé la peur. Parce que j'ai transformé le livre.
Ouais, à un moment, il va dans les cinémas, comme le Brady, voir des films.
J'ai passé vraiment beaucoup de temps au Brady, où là, il y avait en plus la menace des satires à l'époque. On faisait les satires. Je sais pas où ils sont disparus, les satires.
Ils allaient beaucoup dans les cinémas,
dans
pour tripoter les enfants.
C'était des prédateurs qui plotaient comme ça les filles et les jeunes garçons. Et je m'interroge beaucoup sur où sont-ils, les prédateurs.
Parce que. Ils existent toujours. Ça c'est sûr,
mais ils vont plus dans les cinémas.
Non.
Et peu à peu, j'ai transformé quand même toutes ces peurs de l'enfance en objet esthétique et puis ensuite en expression artistique. Donc je suis un bon exemple de catharsis,
d'exorcisme
intérieur.
Non, mais alors, pardon d'être indiscret, mais est-ce qu'il est vrai que votre père a voulu vous kidnapper?
Oui, il y avait cette ambiance de divorce à la dure où, en plus, ça se doublait, ça j'aime bien. Alors, je serais, vous savez, un chantre de l'autofiction, ça fait longtemps que j'aurais raconté tout ça.
Ah bah oui, parce que là, vous avez de quoi vous victimiser et faire une grande carrière.
Il y avait un vrai feuilleton à raconter.
Et vous l'avez jamais revu, ce père?
Non, parce qu'il est décédé quand même pendant mon adolescence. Mais le combat, si vous voulez, de ma mère et ma grand-mère, et c'est ce que je raconte un peu dans Rouge Karma, contre ce personnage maléfique, et se doublait d'une différence sociale. C'est-à-dire que ma mère et ma grand-mère n'avaient pas d'argent et lui était issu d'une famille assez puissante, assez riche. Donc on avait tous les éléments pour... Mais c'est un peu ce que je raconte dans Rouge Karma.
Ça fait penser... Oui, c'est vrai, et ça fait penser à Shining de Stephen King, qui est sans doute une autre de vos références.
Bien sûr.
Le père maléfique, le père dangereux, ça c'est...
Je trouve que ces grandes peurs-là, comment dire, en termes de fiction, elles sont bonnes. C'est des bons sujets. C'est des sujets qui parlent d'abord à tout le monde, je pense, et qui parlent aux tripes. C'est-à-dire, c'est très très profond, c'est enfoui. Et bon, alors, c'est pas un mystère, mais tous mes livres parlent toujours quand même de ce problème d'origine, de paternité, parce que je trouve que, quand il y a un lien comme ça, très fort, sanguin, avec le mal, tout d'un coup, on passe au niveau supérieur.
Mmh. À propos de supérieur, votre deuxième choix, c'est Cecilia Bartoli. En 2009, et c'est Ombra My Fou, un des plus beaux airs de Handel.
Thank you.
Alors, sans transition, on passe à notre ancien métier à tous les deux, la publicité.
Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes ?
Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette.
Oh, tu vas connaître les joies du recyclage !
Ouais, j'ai peur de ouf. Ça fait mal, ça, tu penses ?
Oh, mais non, regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid.
Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris.
Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger.
Il y a 50 ans, disparaissait Pablo Picasso. À cette occasion, le Musée National Picasso Paris présente une exposition insolite et haute en couleurs des chefs-d'œuvre de l'artiste sous la direction artistique de Paul Smith. Une invitation ludique et joyeuse à redécouvrir, à travers l'œil espiègle du créateur britannique, tous les domaines de création de Picasso. Peinture, sculpture, céramique, art graphique, célébration Picasso, la collection prend des couleurs, une approche spontanée, une expérience instinctive. Jusqu'au 27 août au Musée National Picasso Paris.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez un Peugeot 2008 flambant neuf. Vous vous dites, quelle allure ! Puis vous envoyez un autre, et encore un autre. Alors forcément, vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot.
Jusqu'au 31 mai chez Peugeot, profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés, comme le 2008 Allure Pack à seulement 200 euros par mois avec sa conduite semi-autonome. LLD 49 mois pour 40 000 km, premier loyer 4 150 euros pour un 2008 Allure Pack 9. Réservé aux particuliers si acceptation crédit part. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir, nous sommes toujours enfermés chez La Pérouse avec Jean-Christophe Granger. Nous avons un serial killer à notre trousse qui va arriver certainement très vite. Alors, d'ailleurs, le serial killer dans Rouge Karma, chez Albin Michel, votre nouveau roman, emploie une sorte d'anguille ou de murène pleine de dents qui s'appelle la lamproie. Il utilise cet animal qui est une sale bête. Hein. Je suis allé vérifier sur Google. C'est un horrible animal. Horrible. Et il utilise cet animal pour faire très très mal à des jeunes femmes. Vous êtes un malade mental, Jean-Christophe Granger.
C'est la recherche du cauchemar, de la peur, de ce qu'il y a de plus horrible. Et cette lamproie, quand on voit des images,
ah oui,
c'est une bête.
Mais ça, où est-ce que, dites-moi dans quel pays on trouve cet animal pour que je n'y aille jamais.
Ah mais il y en a beaucoup. Il y en a dans les fleuves, il y a la lamproie d'eau douce et la lamproie d'eau de mer.
Ah bon, mais il y en a en France.
Oui.
Ah, oui,
ça se mange même.
Ça se mange, mais
pour tirer les dents, hein, parce que
qu'est-ce que c'est que cette bouche pleine
c'est
de dents?
Atroce. Et alors, c'est une sorte de vampire des eaux, parce qu'elle vient sucer les flancs des poissons. Enfin, c'est une bête abominable.
Ah oui,
c'est abominable. Mais si vous voulez, c'est ça que j'essaye de faire, et je crois que là, on est en plein dans les contes pour enfants. Mon tueur s'associe ou se fusionne avec les animaux les plus horribles de la nature. On est au fond de la forêt, là. On est vraiment dans la grande peur. Primal.
Oui, c'est parfait. Alors donc, comme dans Les Promises, vous avez trois enquêteurs, et donc je me dis, vous avez maintenant trouvé un système, c'est le trio. Ça vous permet de changer de point de vue, de faire des chapitres plus courts, plus percutants.
Exactement.
Oui.
Si j'utilisais une image, je dirais que ça permet la trois dimensions.
Oui.
C'est-à-dire, on a plusieurs angles de vision comme ça, et je trouve que c'est agréable d'avoir une sensibilité qui change au fil des événements.
Je vous le confirme.
Alors c'est compliqué parce qu'il faut éviter de faire se répéter les événements qui ont été vécus les mêmes par des personnes différentes. Mais j'aime bien. Et puis alors j'aime bien mettre parmi les trois un personnage féminin. Je trouve ça apporte une note.
Oui. La jolie Nicole, les cheveux roux,
qui est quand même pleine d'idées de gauche et puis surtout spirituelle. Qui a sa chambre remplie de petites babioles indiennes, etc.
Comment elle s'appelle Nicole ? Moi, j'imaginais Nicole Kidman. Vous voyez, Nicole Kidman, jeune, avant les opérations chirurgicales.
Tout à fait, mais à cette époque-là, dans les années 70, il y a eu des actrices comme ça, filiformes, adorables. Je ne sais pas si vous connaissez Mimsy Farmer.
Ah, bien sûr, oui.
Qui était dans le film
More, de Barbet Schroeder.
Exactement. Oui. Et ça, c'est ma source d'inspiration.
Ah, oui,
je pense qu'on a rêvé à ces genres de jeunes femmes androgynes.
Sublime. Alors, page 88, Nicole écoute Nirvana. Et là, je me suis dit, Granger s'est planté. Ça y est, il s'est planté.
Alors, oui,
je le tiens. Il a cité Nirvana, qui est 30 ans plus tard. Mais non, Pentecost Hotel du groupe anglais Nirvana date des années 60. Donc vous m'avez eu, c'est vous m'avez fait découvrir qu'il existait Nirvana avant Nirvana.
Je crains que la plupart de mes lecteurs se disent ah Granger fait un anachronisme.
Oui.
Nirvana n'existait pas encore. Eh bien si, il y a eu un groupe anglais Nirvana qui existait dans ces années-là et qui était un très bon groupe, très très romantique. C'était, vous savez, c'était l'époque où on jouait de l'orgue avec des chemises à jabot.
Ah oui, Procolarum.
Voilà, ça, en mousquetaire.
Bon, je vous rappelle qu'on est sur Radio Classique quand même. On va pas non plus faire une demi-heure sur le rock psychédélique. Dans Les Rivières Pourpres, il y avait aussi une utopie. Puisque c'était un roman sur un tueur qui voulait améliorer l'espèce humaine par l'eugénisme. Dans Le Vol des Cigognes, en 1994, il y avait déjà Calcutta.
Oui.
Le tueur prenait le cœur de ses victimes pour le greffer sur son fils et prolonger la vie de son fils.
Exactement.
Non, mais où allez-vous chercher tout ça, docteur?
Alors, pour ce qui est des idées cinglées, encore une fois, malheureusement, ça vient du fond de mon hypothalamus ou je sais pas où, mais bon. Mais par contre, Calcutta, quand j'ai écrit Le Vol des Cigognes, je sortais de mes reportages de cette époque où j'avais une sorte de trop plein de souvenirs parce que j'avais été un intellectuel quasiment cloîtré chez lui ou à la bibliothèque. Et puis tout d'un coup, par les hasards des rencontres, j'ai rencontré ce grand photographe Pierre Perrin qui m'a invité à le suivre sur les routes, alors vraiment de l'extrême. Et ça a été un grand choc pour moi parce que j'ai découvert le monde comme ça, tout d'un coup, et je suis basculé un petit peu dans l'autre côté, tout d'un coup, alors les intellectuels étaient minables, il n'y avait plus que les aventuriers, etc., etc. Et alors, et fatalement...
une sorte de Sylvain Tesson des années 90.
J'étais vraiment... on travaillait en freelance pour les magazines, donc on se devait toujours de trouver des sujets rares, inédits, difficiles, et donc j'ai eu vraiment une dizaine d'années une vie d'aventurier. Donc, dans Les Cigognes, j'ai été tenté, évidemment, pour mon premier livre, de caser pas mal de souvenirs, dont Calcutta. Mais depuis longtemps, je voulais revenir plus posément et plus longtemps sur l'Inde, qui est un pays quand même extravagant et passionnant. Et en même temps, alors, bien sûr, moi, j'insiste sur le côté cauchemardesque de l'Inde.
Oui.
Il y a aussi tout un côté magnifique, spirituel, mais il y a aussi toute une misère et puis des excès, notamment dans la spiritualité, et comme le tantrisme, ce genre de choses dont je voulais parler depuis longtemps.
Oui. Vous avez élevé le niveau du gore en France. À côté SAS, c'est Walt Disney. Il y a souvent des tortures, des expériences scientifiques... Êtes-vous le docteur Mengele de la littérature?
Alors, on me pose souvent cette question, mais...
Non, je pense pas. À ce point-là, là, comme ça,
bon, là,
non.
C'est un peu creux, c'est un peu direct. Mais ce que je veux dire tout de même, c'est que, passé le stade de l'idée, quand j'ai l'idée, moi-même, je m'effraie, je me dis, mais d'où je sors un truc pareil? Et puis ensuite, Frédéric, vous connaissez ça, après, il y a le boulot d'artisan de l'écriture. Moi, par exemple, alors j'écoute beaucoup de musique en écrivant, donc j'écris mes petites scènes d'autopsie en écoutant Puccini. Vous voyez, je suis passé au rang de l'artisan qui essaie d'écrire le mieux possible et qui est un petit peu déconnecté de l'horreur qu'il raconte. Je dois dire, je me souviens toujours de Flaubert qui avait vomi quand il avait écrit la scène de suicide de Madame Bovary. Je suis beaucoup plus distancié. J'écris tranquillement mes petites affaires de meurtre abominable avec une espèce de distance d'artisan. Tous les jours, je me mets à l'ouvrage et j'ai ma musique au casque et tout va bien.
Non, mais parce que on va faire un jeu maintenant. Devine tes citations où je vous lis des citations de vous et puis vous me dites dans quel livre c'était. D'accord.
D'accord.
Et vous allez voir, je rebondis. Alors, c'est la première citation de vous. Nous sommes les maîtres, nous sommes les esclaves, nous sommes partout, nous sommes nulle part, nous sommes les arpenteurs.
Ça, c'est Les Rivières Pourpres.
Oui. Et oui, la phrase suivante, c'est nous maîtrisons les rivières pourpres.
Et je me souviens parfaitement dans le scénario, il y avait donc cette citation et le producteur avait dit « C'est pas mal ça, c'est qui a écrit ça ?» J'ai dit « Ben c'est moi
!» Ben oui, mais il faut prendre les compliments. Non, je vous lis ça parce que il y a un point commun quand même dans tous vos romans, c'est de donner à l'horreur un caractère religieux.
Oui.
Ça, c'est votre dada.
Oui.
Alors, je ne sais pas si vous avez été traumatisé par des prêtres dans votre enfance.
Non.
Mais vos tueurs ont toujours besoin de donner un sens à leur sadisme. Les rituels sont une excuse pour massacrer des gens, quoi, en gros.
Moi, ce qui m'intéresse, ça, tout le monde l'aura remarqué, c'est un peu, disons, le mal absolu. C'est-à-dire, j'écrirai jamais une histoire de meurtre sur fond d'intérêt d'argent ou sur fond de passion amoureuse.
Ça, c'est banal.
C'est-à-dire, ça. Alors, je vais parler un peu d'une manière paradoxale, mais ça vient un peu corrompre la pulsion criminelle pure. C'est-à-dire, ma pulsion criminelle, elle n'a qu'un mobile, c'est elle-même. C'est-à-dire, le mal pour le mal, le crime pour le crime. Et la tendance religieuse, la tendance au rituel, ça sublime un peu cette pulsion, ça la rend tout à fait, comment dirais-je, oui, c'est un mal supérieur, quoi. Et il y a une autre chose qui m'a toujours fasciné, et c'est pour ça que j'ai voulu un jour parler du nazisme, c'est le pire des mots, pour moi, c'est le mal qui se trouve une excuse, c'est-à-dire une raison d'être, et que, soi-disant, c'est pour le bien, dans un temps futur, etc. Ce que faisait exactement le nazisme, puisqu'ils ont massacré des millions de gens en pensant faire le bien, d'une certaine façon.
C'est aussi le cas du communisme.
Ou le communisme. Ouais. C'est le, comment dirais-je, c'est le... le degré supérieur, ultime du mal.
Oui.
C'est-à-dire et alors c'est un
le moment où le bien devient le mal.
Voilà, et si vous voulez
la promesse du bien.
Je suis toujours assez intéressé et fasciné par l'intérieur de l'homme qui lui-même à sa petite échelle, je trouve, se trouve facilement des excuses pour faire le mal. Pas le mal, mais dénoncer un voisin ou crever les pneus du type en bas. Facilement l'homme se dit "Oh,
On l'a vu pendant la période du Covid. Les gens se mettaient très vite à devenir des délateurs.
Et je trouve que c'est abominable et c'est bien le germe du mal que moi je pousse avec le curseur, casser le curseur. Mais si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse. Moi je me souviens, je suis certain que vous connaissez ce grand auteur de bande dessinée qui s'appelait Gottlieb.
Bien sûr.
Ben Gottlieb, assez posément, assez froidement, un jour il a raconté comment ses parents, au moment de la rafle, n'avaient pas été vus, et comment les voisins ont dit « Attendez, ils sont là-bas, ils sont... » Ce qui est atroce, ça n'apportait rien aux voisins, c'était... Donc c'est ça, le mal, c'est ça, donc moi... Évidemment, les grandes orgues, mais c'est quand même là-dessus que je travaille, c'est sur cette pulsion maléfique de la destruction de l'autre.
Troisième choix musical de Jean-Christophe Granger, Edward Elgar, symphonie numéro 1 par l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Sir Colin Davis.
We'll be right back.
Je frissonne, je tremble, je suis effrayé par toute cette musique et par mon invité Jean-Christophe Granger, qui n'écrit que des romans monstrueux, mais c'est un compliment. On continue de deviner les citations de Jean-Christophe Granger. Alors attention, je vous lis une phrase de vous. « La forêt infinie se déroulait sous nos yeux. C'était une mer d'émeraude immense et ondulante qui se précisait à mesure que nous descendions. Peu à peu, le vert sombre s'éclairait, se nuançait. J'aperçus des chevelures ébouriffées, des crêtes moutonneuses, des cimes en effervescence. »
Oh là 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 là, ça j'ai dû l'écrire plusieurs fois dans mes livres, parce que je parle beaucoup de jungle et tout ça. Alors, attends,
vous voulez que je continue?
Oui, un petit peu. Là.
Alors, les fleuves étaient jaunes, la terre rouge sang, et les arbres vibraient comme des épées de fraîcheur.
Oh,
ah, c'est pas mal, je
alors,
trouve.
C'est pas mal du tout, d'abord, oui, on peut le dire.
Bah,
mais
oui.
Alors, c'est peut-être Congo Requiem, non? Ou Lontano?
Le premier,
ah,
le
oui,
vol
les
des
vols
cigognes.
Des cigognes.
Oui.
Bah, j'étais déjà en forme.
Mais je trouve
Frédéric,
que justement... pourquoi
j'étais déjà en forme.
Mais pourquoi je vous ai lu ça? Parce que vous aviez cette ambition formelle
déjà.
Dans votre premier roman,
déjà.
Un style poétique, mmh. Assez littéraire, je veux dire. Les arbres vibraient comme des épées de fraîcheur. Alors, c'est de la poésie.
Frédéric, j'en ai pris mon parti, mais c'est un effort littéraire et disons une pulsion que j'ai qui est largement passée inaperçue.
Parce que vous êtes dans le domaine du roman noir.
On a toujours retenu les bonnes histoires,
les personnes découpées
qui font peur et qui vendent plein de livres, mais il est assez rare qu'on dise tiens. En plus, il y a un petit souci
ben,
quand même
souci.
De littérature, parce que moi, je viens quand même de la littérature.
Et vous, comment dire, vous vous faisiez plaisir en écrivant des phrases comme ça très recherchées, ou parce que aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas, mais vous êtes plus efficace, quoi. Vous faites des phrases plus brèves.
Vous savez comment on dit, c'est la tentation du beau style.
C'est ça.
Et moi, étant un Français, j'ai la tentation du beau style, c'est-à-dire que je veux écrire. Nerveux, brutal,
oui.
Violent,
oui.
Et de temps en temps je craque. Et vas-y les fleuves jaunes, et vas-y les épées de fraîcheur. Je craque le beau style, parce que on a tous bu à la source. Moi
non,
évidemment,
c'est...
ma grande source c'est les grands romanciers du 19e siècle et puis ceux du début du 20e siècle qui sont d'immenses auteurs. Je crois que on a oublié, enfin on en parle peu, mais par exemple Jean-Paul Sartre, c'était un très très grand
magnifique.
Écrivain de stylistiquement, oui. Je veux dire, parce qu'on parle beaucoup du philosophe du machin.
Mais mieux vaut penser à son style qu'à sa pensée d'ailleurs.
Absolument, absolument. Et donc, et Camus, par exemple, ses premiers bouquins, Les Noces, là, et tout
oui.
Ça, c'est extraordinaire.
Non, ah oui.
C'est Noces d'été, je crois. Bon.
Oui, oui. Alors, je continue mon petit jeu.
Vas-y.
Ce qui est triste, ce n'est pas seulement que le nazisme ait existé, qu'il ait contaminé un peuple entier et provoqué le massacre de millions de personnes, ni que cette monstruosité persiste encore aujourd'hui partout sur la planète. Non, le plus triste, vraiment, c'est qu'il y ait une telle haine au fond de chacun de nous, sans exception.
Je pense que c'est Miserere.
Exact, 2008.
Oui, parce que dans ce livre, j'ai parlé d'une secte dont on a beaucoup parlé ensuite, qui a existé, qui était la colonie d'Iguindad. Et moi, par mes reportages, j'ai eu la chance d'aller au Chili quand elle était encore en marche.
Donc
en
c'était des néo-nazis.
C'était un néo-nazi qui avait fondé ouais. Un néo-nazi pédophile, pardonnez-moi la double
oui.
Couche,
oui.
Qui avait créé une secte au fin fond du Chili après la guerre hein, en tant que nazi réfugié et qui avait créé un monde, bon bah dont je parle dans ce livre, je m'en suis inspiré, hein, c'est pas et qui était terrifiant. Et au Chili à l'époque, moi j'ai eu la chance de rencontrer des journalistes. Qui essayait de faire sortir le scandale, mais c'était évidemment une communauté protégée par Pinochet, etc.
Mais je veux dire, cette phrase, le plus triste, c'est qu'il y a une telle haine au fond de chacun de nous. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui dénonçaient les Juifs pendant l'occupation allemande à Paris. Vous pensez vraiment ça? Parce que vous êtes catholique. Et c'est paradoxal, quand on est catholique, quand on est chrétien,
alors,
on pense quand même qu'il y a...
Ça,
il n'y a pas que de la haine en l'homme.
C'est de vraiment la grande
c'est la
question.
Grande question. Pardon,
et
mais oui,
alors chacun trouve un peu sa propre théorie personnelle. Moi, alors là, je switch du catholicisme au freudisme. J'ai cette explication, ou du moins c'est peut-être
cette explication qui m'a marqué quand j'étais étudiant vers 18-20 ans. Mais je crois, comme Freud, que cette pulsion de la destruction, de Thanatos, elle émerge quand l'homme est frustré, a eu un manque d'amour, un déséquilibre. Il y a quand même une
référence. Nul n'est méchant volontairement.
Et c'est ce que je pense. Je pense tout de même que, et je remarque, et tout le monde le sait, que par exemple tous les tueurs en série ont eu un problème dans l'enfance, une enfance horrible, sans amour. Je pense que une personne normalement constituée, si elle a l'amour dont elle a besoin, elle ne deviendra pas si méchante. Je pense, mais en même temps, je dis ça, pendant le nazisme, tout le monde est devenu un tueur en série.
Oui.
Pendant le Rwanda, tout le monde est devenu un tueur en série. Oui. Donc, il y a quand même cette pulsion qui affleure toujours et qui ne demande qu'à sortir. Oui. C'est quand même assez... C'est pour ça que moi, je suis un fanatique de Freud, parce que je trouve que c'est quand même lui qui a trouvé ça, le désir et la destruction, l'amour et la mort. Quand même, il a résumé la situation.
Est-ce qu'il y a des techniques du page-turner? Comment faites-vous pour faire durer le suspense? C'est une question que je me pose en tant que collègue.
Alors, j'ai une seule technique, et je vous la dis volontiers parce que je révèle rien. Il faut trouver une bonne histoire. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que le suspense doit être dans l'histoire. C'est-à-dire, il doit y avoir une histoire assez riche pour avoir des révélations, pour avoir des twists, comme on dit maintenant, qui font qu'on est surpris, mais il y a rien d'artificiel. Moi, par exemple, je déteste toutes les techniques qui sont artificielles. Les auteurs qui finissent leur chapitre au milieu de la phrase pour créer un suspense alors qu'il n'y en a pas. Dans les films, je déteste ça aussi, les faux montages qui vous font croire que quelqu'un est dans il y a un exemple, c'est le silence des agneaux qui est vraiment réussi.
Oui, très réussi.
Mais c'est quand même un faux suspense.
Non, mais
donc
Hitchcock...
je n'aime pas trop les procédés, quoi.
Hitchcock parle de la bombe sous la table.
Oui.
Vous connaissez cette fameuse histoire, il dit voilà, il suffit de montrer une bombe sous la table et le suspense est là, parce qu'on se demande quand est-ce qu'elle va exploser et tout ça. Il n'y a pas des stratégies quand vous écrivez où vous dites tiens, je vais mettre une bombe sous la table.
Non. Je saisis la balle au bon pour dire que justement Hitchcock a été alors vraiment souvent cité pour ses méthodes, ses techniques, ses procédés, etc. Moi, de mon point de vue, il avait pas tant de technique que ça, justement. Et on le voit bien, quand il avait une bonne histoire, le film est bon. Et Dieu sait qu'il y a des mauvais Hitchcock. Je n'arrive même pas à le prononcer. Mais des Hitchcock ennuyeux parce que son histoire était pas bonne. En revanche, bon, quand il avait une bonne histoire, je pense à Rebecca ou aux
Psychose.
Alors, Psychose, là, oui, il y a des procédés fous qui nous marqueront tous à jamais. Moi, j'ai souvenir quand j'étais adolescent, donc à l'époque, il y avait un ciné-club. Donc, c'était la télé. À 11h du soir, il y avait un film le dimanche. J'étais seul, j'ai vu Psychose.
Ah bah voilà, on sait maintenant d'où ça vient.
La dernière image, où, là il y a un procédé, mais qui est tellement génial, où il surimpressionne le visage de Perkins avec le crâne de la mère.
C'est
inoubliable.
C'est fichu, vous êtes traumatisé à vie.
Ah oui. Là vraiment, j'étais grand, mais je tremblais là.
Vos influences, vous avez cité les grands romanciers réalistes français du 19e. Enfin, il y a aussi des classiques du polar. Je suppose que vous avez dû lire Agatha Christie, George Simenon, Conan Doyle. Est-ce que vous êtes plutôt du côté des auteurs américains comme Hammett, Chandler, ou plutôt du côté des Français?
Alors, justement, je veux signaler que j'ai jamais lu ni Agatha Christie ni George Simenon.
Ah bon?
Qui m'intéresse pas beaucoup comme écrivain. Simenon a été un scénariste inouï. Je veux dire, la moitié du cinéma français des années 50-60, c'est des scénarios de Simenon extraordinaires. Mais alors, stylistiquement...
Sa manière de dire « il pleut
». Voilà, et puis « il pleut », c'est tout.
C'est simple, il y a une simplicité.
Alors non, moi, je l'ai souvent raconté, mais au moment où j'ai commencé à faire des reportages, et donc au moment où j'avais ma vie bouleversée par la réalité, par les voyages, et justement, je voulais plus entendre parler du monde intellectuel, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les polars. Pour moi, avant, c'était un genre, un sous-genre, mal écrit, vulgaire, et j'adorais les polars au cinéma, Marathon Man, L'année du dragon, enfin, c'est des films qui sont mes, vraiment mes films fétiches. Mais en littérature, j'arrivais pas à trouver des livres qui m'accrochent et dont le style me semblait de la qualité de, des grands maîtres que je lisais. Oui. À l'époque, et je l'ai souvent répété aussi, je lisais des grands maîtres qui sont très grands, qui sont magnifiques, mais vous regardez toujours le coin de la page pour savoir, oui. Hein, il y a encore 200 pages à se farcir. Vous voyez, j'essayais de lire James Joyce, Proust. Oui. Bon, là, vous regardez souvent le coin de la page. Tout d'un coup, je découvre Elroy, je découvre Sébastien Japrisot, oui. Je découvre Raymond Chandler, des livres qui s'avalent. J'avais pas réalisé même que à aucun moment j'ai regardé le coin de la page. Oui. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dit mais c'est cette littérature là que j'aime en fait. Oui. Et là la convergence de ma vie puisque j'avais plein d'aventures dans ma vie personnelle liées au reportage ont fait que d'un côté j'avais vraiment du matériel, des vrais souvenirs incarnés d'aventure, et de l'autre, ce goût pour les policiers. C'est ça qui a fait la fusion, si vous voulez, du vol des cigognes.
Est-ce que vous, ça vous embête pas d'être cloisonné au rayon polar? Parce que il y a des auteurs, comme Daniel Pennac, Tonino Benacquista, il y en a plein, Yves Ravet, Pierre Lemaître, qui sont passés du rayon noir à la littérature blanche, entre guillemets. Vous avez, c'est pas un rêve, un fantasme que vous caressez?
Pas du tout.
Le soir, en vous endormant?
On m'a souvent demandé, posé cette question, mais je réponds tout simplement, moi, c'est ce que j'adore, le polar. Et quand on me dit, alors en plus, est-ce que c'est pas un genre mineur? Je dis, ben non, de mon point de vue, c'est le grand genre, le genre noble parmi tous, parce que c'est ce que j'aime le plus. Et d'ailleurs, en matière de cinéma, on a eu beaucoup d'exemples de réalisateurs qui appartiennent aux classiques, qui ont fait des polars. Et tout d'un coup, ça devenait un de leurs meilleurs films. Donc, c'est très bien. Non, ce que je pourrais faire, c'est une histoire, peut-être...
Une autobiographie
alors,
sur
une
cette
autobiographie,
enfance.
J'aimerais beaucoup écrire un livre sur les femmes. Mais comment dirais-je...
Je vous le déconseille, personnellement.
Voilà, la raison
vous allez avoir des problèmes.
Ouais, j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes.
Vous allez avoir des problèmes.
Donc ça, j'ai dû abandonner cette idée. Mais le polar, non, c'est vraiment l'échine dorsale que j'aime.
Non, mais je ne dis pas ça avec malveillance.
Hein, non, je comprends.
Je pense, on a reçu ici Bret Easton Ellis pour son dernier roman qui s'appelle Les Éclats et qui est un polar. C'est un polar. Il y a un serial killer qui est exactement pareil. Oui, exactement. Ça se passe à Los Angeles dans les années 80. Donc, vous, c'est Paris et Calcutta dans les années 60. Mais franchement, ça pourrait être un livre de vous. Il y a plein de références musicales comme vous. Et voilà, et c'est une histoire de quelqu'un il y a une menace d'un tueur en série à Los Angeles.
Ah, voilà. Tu vas le lire.
Oui, oui. En français, Les Éclats.
La question plus générale de dire est-ce que le polar vous cantonne un peu à un petit ghetto, disons. Bon, ça c'est vrai.
Sauf dans cette émission, puisque vous êtes là.
Sauf dans cette émission, et je vous en remercie. Mais c'est vrai que j'ai été toujours marginalisé. Par rapport au monde de l'édition, classe.
Oui, littéraire. Mais c'est en train de changer. Vous étiez à la grande
librairie.
J'espère
que ça change. Mais c'est pas très grave. Moi, vraiment, vous savez, je vais vous dire une anecdote. Philippe Soler, c'est mort.
Oui, nous sommes très tristes.
J'ai lu des articles dithyrambiques sur lui. Et je me suis dit, et ça, sans aucune cruauté, négativité. Je me suis dit, bon, bah, finalement, voilà, c'est son oraison funèbre, c'est ce qui restera un peu. Ouais. Et je me suis dit, ces articles dithyrambiques sont écrits par des hommes qui espèrent avoir les mêmes articles dithyrambiques à leur mort. Et je sais pas si c'est ça le principal. C'est quand même le principal, c'est d'avoir des milliers de lecteurs qui vibrent avec votre livre. Même si vous restez pas, même si vous êtes pas un immortel, on me le retirera jamais. La femme sous sa couette qui lit Le Grand G,
bah oui, c'est vrai. Mais les grands romanciers dont vous inspirez pensaient sûrement davantage au public qu'aux critiques.
Absolument.
Merci infiniment d'avoir passé une heure en ma compagnie, Jean-Christophe Granger. Donc, je rappelle le titre de votre dernier roman, Rouge Karma, chez Albin Michel. Pour un prix de vente de 23,90€, vous aurez 570 pages. Très bon rapport qualité-prix.
C'est donné.
Oui, vraiment, c'est une bonne affaire. Merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gault, Louis Rouèche à la réalisation, sans oublier Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. La semaine prochaine, je recevrai sûrement quelqu'un de très bien, mais je ne sais pas qui c'est encore. Bon vendredi soir à tous.